1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le dématérialisé que dans le support physique. Dans cette émission, nous reviendrons d'abord sur Anora, la palme d'or de cette année. Et n'ayons pas peur de dire les choses tout de suite, elle est très moyenne. Ensuite, nous irons faire un tour du côté des tribunaux américains et discuterons du dernier Clint Eastwood, jury numéro 2. Notre pause musicale country nous emmènera à la découverte de la musicienne Hazel Dickens. Puis, nous décortiquerons les films 5 tulipes rouges, disponibles chez Pathé Films, et dans un tout autre genre, Rawhead Rex, le monstre de la lande, film de monstre de 1986, trouvable chez nos amis Rimini Éditions. Popcorn et Banjo, la deuxième, c'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti!
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Anora, donc, palme d'or de cette année, c'est le 8e long métrage de Sean Baker, cinéaste américain, qui s'intéresse particulièrement aux laissés pour compte, à ceux dont on parle peu ou dont on parle moins. Anora, c'est l'histoire de Annie, interprétée par Mickey Madison, qui joue le rôle d'une stripteaseuse qui s'attache pour son argent à un fils d'oligarche russe. Les deux loulous s'entichent l'un de l'autre et décident de se marier à Las Vegas, et Annie se retrouve projetée dans un monde qui lui était jusqu'alors totalement inaccessible. L'argent coule à flot et elle pense pouvoir refaire sa vie avec un haussement social colossal jusqu'au retour des parents du jeune oligarche russe qui ne voit pas les choses de cet angle-là. Alors, sur Internet, on y lit que c'est un peu le nouveau Pretty Woman, version hardcore. Charles, moi, j'aimerais d'abord savoir ce que tu penses de tout ça.
Bah écoute, je vais être assez d'accord avec toi sur le côté tiédasse, voire même pas terrible de cette palme. Après, je ne suis pas un grand fan de Sean Baker. J'ai l'impression qu'il a toujours une posture sur justement ces gens laissés pour compte, et ça me déplaît assez. Et là, Anora ne fait pas exception. Et surtout, je trouve qu'il tourne un peu plus, encore plus à vide que dans ses autres films.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de posture ?
Je dirais qu'il a une façon de décrire la pauvreté, de décrire les gens, en tout cas une certaine classe américaine, avec une caméra que je trouve assez...
C'est au niveau de la mise en scène que ça pêche.
Je dirais, il y a un truc un peu paillette qui m'énerve, qui m'exaspère beaucoup.
Ouais.
Et non pas qu'il n'y a pas de la beauté, il n'y a pas du courage, il n'y a pas plein de choses dans ces histoires-là, mais j'ai l'impression qu'il a plus envie de mettre en avant que... En tout cas, c'est comme ça que je ressens, que la pauvreté, c'est presque cool et presque stylé, tu vois, que vraiment parler de prendre un axe social. Après, c'est bien sûr, c'est que mon avis là-dessus, mais...
Il y a un côté pop dans la mise en scène de la misère.
Qui m'exaspère beaucoup. Red Rocket, pour moi, c'était un peu ça. Et Anora, là, le problème que j'ai, c'est qu'effectivement, c'est une espèce de Pretty Woman, mais sans vraiment... Je trouve qu'il ne va pas au bout, en tout cas, de son idée. Il ne va pas au bout de son sujet. Je trouve que ses personnages sont en fait pas très bien écrits parce que je ne vois ni l'histoire d'Anne Moore, ni une histoire pécuniaire qui pourrait y avoir entre les deux. J'étais vraiment...
Ça, quand même, pour le coup, moi, c'est pas un film... Je te coupe,
excuse-moi,
mais... Bon, je crois qu'on est assez d'accord sur ce qu'on a pensé du film. Mais le rapport pécunier, quand même, moi, je le ressens. Il ne faut pas oublier que Mickey Madison, donc l'actrice, enfin, en tout cas, le personnage de Annie, dès qu'il est question de dealer un moment avec elle, elle parle de thunes.
Travail.
Ouais, mais donc, c'est quand même une histoire d'amour qui est basée que sur l'aspect finance.
Apparemment, moi, je...
Tu l'as pas ressenti.
Non, parce que je ressens ni ce côté-là, ou en tout cas, il n'est pas assez mis en avant parce qu'en fait, c'est son travail. Donc, en fait, elle fait ce qu'il faut pour gagner de la thune. Et en même temps, vu qu'il y a cette histoire de mariage, de presque d'amour, vu que le mec, il est complètement fou dans son délire, il y a une espèce de mélange qui ne va jamais complètement au bout d'un des côtés, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé assez désagréable. Du coup, je trouve qu'il y a une première partie qui est beaucoup trop longue pour ce qu'elle est. Ouais. Une dernière partie qui est immensément longue. Et en fait, moi, ce que j'ai préféré, c'est il y a 20 minutes, qui aurait pu être un super court-métrage, un chef-d'œuvre de court-métrage. Je pense que ça aurait pu être un bon film d'une heure 20. Et là, 2h20 de
c'est quoi les 20 minutes que tu as particulièrement apprécié?
C'est le moment où, justement, il y a un twist dans... peut-être qu'on va prévenir aussi, vas-y, avant toute chose. On spoil un peu. Alors, c'est pas un gros spoil, mais on va dire l'oligarque russe disparaît. Et au même moment où en fait les parents apprennent qu'il s'est marié, et donc il y a deux Golgoth russes qui arrivent pour essayer de les bloquer. Et donc le gamin s'en va et il reste plus qu'Anora. Et en fait Anora va complètement se battre pour essayer de sortir et elle va pas y arriver. Et il y a 20 minutes de pure comédie où ces deux molosses russes qui osent à peine la toucher, osent à peine faire quoi que ce soit et ont même presque peur d'elle. Et où la meuf, en fait, pendant 20 minutes, elle pète les nez, elle les fracasse contre des tables en verre. Et la séquence, elle est hyper, hyper drôle, quoi. Hyper bien foutue.
Ouais, elle est, en fait, Anora et les parents de l'oligarche russe, quand ils apprennent que leur fils s'est marié avec une stripteaseuse un peu sur un coup de tête, ils sont affolés, donc ils envoient deux de leurs colosses. Et les deux colosses prennent plus ou moins en otage Anora en lui disant « On retrouve ton mari ». On annule ce mariage et tant qu'on n'a pas annulé ce mariage, tu restes avec nous parce qu'on a besoin de ta signature pour annuler le mariage.
Ouais.
Et donc elle se retrouve en face de ces deux masses des pays de l'Est qui font 2 mètres sur 2 mètres et en fait c'est elle qui les
fracasse.
Qui les balade à droite à gauche.
Mais c'est des petits chatons quoi. Et vraiment la séquence, moi je l'ai trouvée vraiment très très drôle, très bien faite et en plus elle est vraiment étirée vu qu'elle dure vraiment longtemps. Il y a un effet de boule de neige qui s'installe où à chaque fois, il y a un nouveau personnage qui arrive et dit « Mais pourquoi tu l'as attaché ?» fait, Non, mais il ne faut pas la détacher, elle est malade. » Et en fait, bien sûr, le mec, il la détache, il se reprend un coup dans les dents. Et ensuite, il y a une troisième personne qui arrive et il dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fait tabasser par qui, là ?» Et je trouve qu'il y a un truc comme ça de comédie, de slapstick, de burlesque qui est assez génial et qu'on retrouve un petit peu dans le film mais qui s'évanouit très vite.
Ouais.
Et vraiment, le reste, moi, je suis un peu dépassé par le quelconque message qu'il voudrait faire passer sur le côté montée en puissance. Enfin, comment la meuf qui pourrait possiblement s'élever de classe, et tout, etc. En fait, il en dit tellement rien de ça, il en fait tellement rien, que je suis assez... assez déçu en tout cas.
On parle quand même, moi j'y vois quand même une dénonciation, alors elle est peut-être tiède, mais il y a quand même une dénonciation de la surconsommation, c'est ce dont on se disait avant le début de cette émission, avec le rapport à ce couple qui veulent, tout d'un coup ils veulent aller faire une soirée à Las Vegas, ils prennent un jet privé, ils vont à Las Vegas, ils prennent une suite colossale, il y a une espèce de, comme ça, de déversement, de flot d'argent qui en continu. Moi, je me souviens, j'avais Jean-Pierre Mocky qui m'avait raconté quand il avait fait ses téléfilms, Mister Mocky présente, il expliquait qu'il avait des budgets de télé qui lui semblaient colossaux et que c'était comme une veine ouverte, il y avait l'argent qui coulait à flot comme s'il avait une veine ouverte, et ça m'a fait un peu penser à ça, c'est-à-dire que tout d'un coup ils font ce qu'ils veulent, rien ne les arrête, et s'ils veulent claquer des centaines de milliers de dollars pour juste une soirée à Vegas, voire des millions, ils le font. Je pense que ça, c'est un peu ce sur quoi les gens s'appuient pour dire que le film est aussi un film qui dénonce quelque chose. Maintenant, là où je te retrouve, c'est que effectivement, ça va pas beaucoup plus loin. C'est assez creux. Et je suis assez d'accord sur la caractérisation des personnages. En revanche, je ne sais pas ce que tu as pensé des acteurs. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé Mickey Madison, qui est donc l'actrice principale, qui joue le rôle d'Anora. Je l'ai trouvé très bien et j'ai beaucoup apprécié qu'une Palme d'Or américaine mette en avant des acteurs qui ne viennent pas du sérail des comédiens stars hollywoodiens à laquelle on a l'habitude ou auxquels on est en général confronté. Là, on est dans un espèce de nouveau... casting et que j'ai trouvé assez rafraîchissant, quoi. Toutes ces gueules que je ne connaissais pas. Je sais pas si c'est quelque chose que tu t'es dit pendant le film ou pas.
Non, j'avoue pas du tout, mais peut-être parce que aussi Sean Baker, en tout cas moi, les quelques films que j'ai vus, en fait, il prend pas des grandes restats. Donc effectivement, je savais à peu près vers quoi son film allait se diriger. Enfin, je voyais à peu près les mécanismes. Et je savais que, de toute façon, oui, effectivement, il n'allait pas prendre des grandes stars, ou en tout cas, ça se voyait à l'affiche. Du coup, j'ai pas eu ce truc-là avec les acteurs. Et après, pour la palme tiède, ouais, c'est... Moi, en fait, pour être honnête, je ne comprends même pas comment il peut être en sélection. J'en suis à me dire, on parlait de Mégalopolis le mois dernier, j'en suis à me dire que même Mégalopolis mériterait plus la palme que Anora, tu vois. Il y a plus d'audace, il y a plus de force de proposition, même si ça va dans tous les sens. Anora, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. J'ai du mal à comprendre, en tout cas, j'ai du mal à comprendre cette palme d'or. Alors, j'aimerais qu'on parle de Juré numéro 2, qui est un autre film qui est sorti donc, cette semaine, qui est le 40e, cette fois-ci, long métrage de Clint Eastwood, et qui raconte l'histoire de Nicolas Hoult, qui est appelé pour être un juré commis d'office sur une affaire d'homicide. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on lui présente l'affaire dans laquelle il va devoir être juré et donc donner des décisions importantes, puisque c'est eux qui jugent si la personne concernée est coupable ou non coupable, petit à petit, il comprend qu'il est peut-être lui-même mélangé à cette affaire et peut-être même que ce serait lui le coupable. Alors, visuellement, on va en parler, hein, Charles, mais le film, il a une facture...
Ça va être très court.
Il a une facture très classique américaine. Moi, je trouve, bon, c'est rien de follement original, mais je trouve la mise en scène au service de son propos, elle est juste. Il n'y a pas d'esbrouf, pas de plan gratuit. Et chaque image sert un point de vue qui sert lui-même une histoire. En revanche, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. La photographie a une patine assez proche du téléfilm. Et c'est clairement pas là qu'on trouvera la force du film. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de tout le rapport esthétique de ce film-là, visuel, la mise en scène?
Oh, bah sur le côté esthétique, je pense qu'en vrai, honnêtement, je pense que tu as un peu tout dit. Clint Eastwood, ça fait quand même, je trouve, quelques années avec les films qu'il a sortis, que la mise en scène, de toute façon, n'est pas dingue. C'est plus du scénario et du jeu d'acteur que de la mise en scène pure, parce que vraiment, là, ça ressemble effectivement presque à du téléfilm, en tout cas en termes effectivement d'image. Sur les plans, le montage, c'est classique, du coup, on est bien dans ses chaussons, tu vois. Moi, j'aime bien ce genre de film. J'avoue, j'ai bien aimé ce film parce que c'est exactement le film un peu, je trouve, moyen, dans le bon sens du terme. Tu vas le voir, c'est bien fait, c'est bien joué, c'est bien écrit. Tu te fais pas casser la tête par la mise en scène et tu ressors de là, t'es content d'avoir vu et puis après, de toute façon, tu vas certainement l'oublier. C'est pas un grand Clint Eastwood, mais il reste, je trouve, vraiment très très bien sur ce qu'il dit de la justice américaine avec aussi Nicolas Hoult et Tony Collette qui jouent en même temps de la défense et l'attaque. Je trouve qu'il y a des idées vraiment très intéressantes là-dessus, mais on pourra peut-être en parler après, là, si on parle que du visuel, en tout cas.
Non, mais vas-y.
Sur le scénario, je trouve que, encore une fois, ouais, j'ai trouvé ça très intéressant de partir des deux côtés de la justice. Du coup, la procureure, je pense, qui essaie de gagner l'affaire pour devenir... elle veut devenir...
Ouais, elle veut gagner en galon.
Elle veut avoir une place dans le gouvernement, je crois. En tout cas, et Nicolas Hoult...
Elle est en campagne aussi, et en fait, les résultats du procès dans laquelle elle est mêlée, puisqu'elle représente la défense, la mettent en avant...
Elle représente l'attaque.
Elle représente le procureur. Elle représente exactement.
L'État qui attaque.
Et évidemment, les résultats du procès auront un impact direct sur sa carrière politique.
Exactement. Et Nicolas Hoult, du coup, qui en même temps a envie de défendre cet homme qui est peut-être innocent, parce qu'on va voir aussi dans le film qu'il n'est pas tout blanc. Et en même temps, c'est le mec du jury, donc qui doit être, on le dit dès le début, hein, le jury, il est juste, honnête et bon, parce que justement, ça représente un échantillon, en fait, de la population américaine. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool.
Évidemment, il y a un parallèle à faire avec 12 hommes en colère.
Mais il est présent, ouais.
Quand même, hein, mais je crois que même Clint Eastwood s'en fait valide ce parallèle, quoi. C'est quand même deux films de tribunaux avec Tout le jury qui est OK dans la première partie du film pour condamner le coupable dit, et puis il y a une personne dans les 12 membres du jury qui dit attendez, cette personne-là mérite qu'on passe un peu plus de temps sur son cas, et qui refuse de plaider, enfin qui refuse de le considérer coupable, et donc évidemment ça chamboule toute la mécanique juridique, et on est obligé de essayer de comprendre et de se replonger en détail dans cette enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et si la personne est vraiment coupable.
Ouais, ce qui est intéressant aussi sur les jurés, c'est qu'on voit justement... Il y a Nicolas Hoult qui essaie de se dépêtrer de cette affaire de meurtre. D'ailleurs, on ne sait même pas trop si il a fait ou pas. Enfin, tout est assez cotonneux là-dessus. Et c'est ça que je trouve aussi très cool. Mais on voit bien qu'il y a un membre des jurés qui, en fait, si on peut... Le faire plaider coupable parce qu'après il doit rechercher ses gamins, c'est bien aussi. Il y a tout un truc comme ça de jury qui, en fait, tu sens qu'ils n'en ont rien à faire de l'affaire.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Super. Moi j'ai trouvé donc ce film, quand même pour résumer, j'ai trouvé ce film intéressant, je l'ai trouvé carré, je l'ai trouvé bien construit, je pense qu'on est d'accord effectivement visuellement, c'est pas le film du siècle, d'ailleurs pour moi le dernier grand Klimt esthétique en plus de l'écriture, c'était L'Échange. J'aimais beaucoup avec... tu l'aimes pas du tout ?
Non, si, c'est pas moi.
J'en ai un très très bon souvenir. Pour moi, c'est son dernier grand film esthétique. Mais bon, jury numéro 2, ça reste un film très bien construit, très bien joué, très bien écrit. Et que bah, moi, j'ai trouvé quand même de très bonne qualité. Alors, le temps de souffler un peu après ces moments de cinéma, Charles va nous faire une petite rubrique que vous commencez à connaître, musicale, et on va partir à la découverte de Hazel Dickens, une compositrice et musicienne de country.
Vous avez quand même du vol, hein, ils ont pas piqué le lecteur et les cassettes des Creedence.
He's had more hard luck than most men could stand. The mines was his first love, but never his friend. He's lived a hard life, and hard he'll die. Black lungs done got him, his time is nigh. Black lung, you're just biding your time. Soon all this suffering I'll leave behind, but I can't help but wonder what God had in mind to send such a devil to claim this soul of mine. He went to the boss man, but he closed the door. Well, it seems you're not wanted when you're sick and you're poor. You're not even covered in their medical plans, and your life depends on the favors of man. Down in the poorhouse on starvation's plan, where pride is a stranger and doomed is a man, his soul full of coal dust till his body's decayed, and everyone but black lungs done turned him away. Black lung, oh, your hands I see cold. As you reach for my life and you torture my soul, cold as that water hole down in that dark cave where I spent my life's blood digging my own grave. Down at the graveyard, the boss man came with his little bunch of flowers. Dear God, what a shame. Take back those flowers. Don't you sing those sad songs. The die has been cast now. A good man is gone. We read in the paper and the radio tells us to raise our children to be miners as well. Tell them how safe the mines are today, and to be like Daddy, bring home a big pay. Now don't you believe them, my boy, that story's a lie. Remember the disaster at the Mannington mine, where 78 miners were burned alive because of unsafe conditions. Lure you with money, it sure is a sight, when you may never live to see daylight. With your name among the big headlines, like that awful disaster at the Manny. Don't you believe them, my boy, that story's a lie. Remember the disaster at the Mannington mine, where 78 good men so uselessly died. Oh, don't follow your daddy. There's a man in a big house way up on the hill, far, far from the shack where the poor miner lives. He's got plenty of money, Lord, everything's fine, and he has forgotten. Forgotten, forgotten, the Mannington mine. There is a grave way down in the Mannington mine. There is a grave way down in the Mannington mine. Thoughts, what were their cries as the flames overtook them in the Mannington mine? So don't you believe them, my boy, that story's a lie. Remember the disaster. Where 78 miners were burned alive because of unsafe conditions, your daddy died. How can God forgive you? You do know what you've done. You've killed my husband, now you want my
Je vous avoue que je cherchais l'artiste idéal pour cette chronique pendant tout le mois d'octobre. Je me suis retrouvé dans un dilemme. J'avais plein de noms en tête, mais j'étais incapable de me décider. Le groupe Alabama, Willie Nelson, Patsy Cline. Plus je cherchais, plus j'étais perdu. Et je me suis dit que pour me changer les idées, j'allais lancer un documentaire que je voulais voir depuis un moment. Et la révélation. Harlan County, USA. C'est un documentaire de 1976, signé Barbara Koppel, qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire. Et ce docu nous plonge dans une grève historique de 180 mineurs dans le sud-est du Kentucky. Une grève qui a duré 13 mois, qui a été ponctuée de piquets, de bastonnades, de tirs, mais aussi de musique. On entend des chants a cappella, des guitares, et vraiment la musique y est presque un personnage à part entière. On sent que pour ces mineurs, c'est à la fois un cri de révolte et une source de réconfort. Et c'est justement là qu'intervient notre artiste du jour, Hazel Dickens. Hazel est née en 1925 et est décédée en 2011. Elle a une carrière profondément engagée. Issue d'une famille modeste de mineurs très religieuse, elle a été une pionnière du bluegrass et une des premières femmes à sortir un album dans ce style. À la fois compositrice, militante et féministe, elle dénonçait les inégalités, le patriarcat et l'exploitation ouvrière. Et pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, le bluegrass, c'est donc ce style né dans les années 40, qui se caractérise par des instruments acoustiques comme le banjo, la mandoline et le violon, ainsi que par des harmonies vocales assez riches. Les paroles explorent fréquemment la vie rurale, la nostalgie ou encore les luttes sociales, reflétant les expériences des communautés des Appalaches. Donc c'est cette région des États-Unis qui est, on va dire, West Virginia, Kentucky, Tennessee, etc. Avec Alice Gérard, une autre pionnière du bluegrass, Hazel Dickens a formé le duo Hazel et Alice. Ensemble, elles ont marqué le genre avec leurs harmonies puissantes et leurs récits poignants, parlant fréquemment de la vie des femmes et de leur lutte. Malgré les défis d'évoluer dans un milieu majoritairement masculin, leur talent a su s'imposer et elles seront introduites en 2017 au Bluegrass Music Hall of Fame. Les deux morceaux que vous venez d'entendre figurent également dans le documentaire d'Alan County. La première chanson, Black Lung, c'est une puissante interprétation a cappella qui aborde la terrible maladie des mineurs, donc ce fameux poumon noir, c'est la pneumoconiose. Donc c'est causé par l'inhalation des particules de charbon. Touché personnellement, Hazel Dickens a perdu son frère et deux beaux-frères à cause de cette maladie. Son chant est à la fois déchirant et puissant, et transmet, je trouve, une profonde tristesse et une très forte émotion, évoquant la douleur vécue par tant de familles de mineurs. Cette absence d'instrument crée également une atmosphère très intime, mettant en avant la pureté et l'intensité de sa voix, qui résonne comme un cri de douleur mais aussi de colère. Et on entend même au loin l'aboiement d'un chien, donnant l'impression d'enregistrer sa voix sur le vif, ce qui ajoute, je trouve, un réalisme frappant à la chanson. Et pour le deuxième morceau, qui s'appelle Mannington, Mine Disaster, cette chanson évoque une tragédie qui a touché la communauté minière, l'explosion de la mine de Mannington en 1968, et qui a coûté la vie à 78 mineurs. À travers ses paroles, elle dépeint la profonde inégalité entre les riches, éloignés des réalités des mineurs, et ceux qui luttent chaque jour pour leur survie. Elle dit, et je vais traduire sommairement, « Il y a un homme dans un grand manoir, tout en haut du chemin, bien loin des cabanes où vivent les mineurs, il a plein d'argent, tout va bien pour lui, et il a déjà oublié la mine de Mannington. » Cette chanson, tout en exprimant un esprit contestataire, conserve une mélodie simple et dépouillée. Tout en entendant le banjo, la mandoline, ces instruments par excellence du bluegrass. Hazel nous guide à travers cette histoire de douleur et de résilience et faisant de Mannington Mine Disaster un hommage poignant à la dignité des travailleurs. Pour conclure, Hazel Dickens a donné une voix aux opprimés, prouvant que la musique peut être un outil puissant pour faire entendre les luttes de ceux qui sont souvent invisibles. Je vous conseille vivement de vous plonger dans son répertoire, car chaque chanson est une histoire qui mérite d'être entendue.
Merci beaucoup, Charles, de nous faire découvrir Hazel Dickens. Et j'espère que les auditeurs pourront se plonger dans la longue carrière de cette compositrice et chanteuse de country. Alors tout de suite, on va basculer sur la partie patrimoine de l'émission et on va partir à la rencontre de deux films qui sont actuellement en Blu-ray et disponibles.
DVD, ça vous dit quelque chose?
Ah non, rien du tout.
Eh bien,
vous écoutez
nous...
Allegre FM 93.1.
Eh bien, nous, ça nous dit quelque chose, le DVD, le Blu-ray, le support physique, l'Ultra HD, le 4K, tout ce que vous voulez, parce que c'est ce qu'on aime, on y croit. Et donc, aujourd'hui, on veut revenir sur deux films. Le premier, un film français, tourné en 1949. 5 Tulipes Rouges, c'est un film qui est disponible chez Pathé Film, en Blu-ray. Alors, toute première chose, déjà... Je ne connaissais pas Jean Stély, le réalisateur, et clairement, il gagne à être redécouvert. Je ne crois pas non plus que tu le connaissais, Charles.
Pas du tout.
Alors,
Je savais même pas ce que c'était le Tour de France, je t'avoue, avant ce film.
Alors, on a fait nos devoirs. Il était donc un auteur de polar, en plus d'être évidemment un réalisateur. Et c'est un réalisateur assez connu dans les années 40, puisqu'il réalise Le Voile Bleu en 1942, qui sera le plus gros succès de cinéma pendant l'occupation en France, j'entends. Alors, Jean Stély est un cinéaste qui s'intéresse déjà au Tour de France, donc je précise que 5 Tulipes Rouges est un film qui se passe pendant le Tour de France, et on va évidemment y revenir, mais à noter qu'il avait déjà réalisé en 1940, 9 ans avant, un premier film sur le Tour de France qui s'appelait Pour le maillot jaune, que je n'ai pas vu. Très peu des films de Jean Stély sont disponibles, voire à ma connaissance, dans le marché du Blu-ray, aucun autre que 5 Tulipes Rouges.
De toute façon, pour être honnête, on a un peu découvert ce film par hasard aussi. Hein. C'est vraiment par la sortie des récentes... Enfin, c'est par cette sortie de Blu-ray qu'on a découvert ce réalisateur, ce film qu'on n'avait jamais vu avant.
Est-ce que tu veux nous pitcher un petit peu le film ?
Oh bah le pitch est assez simple. C'est pendant le Tour de France, des meurtres vont être commis. Et sur chaque scène de crime, le meurtrier va laisser une tulipe rouge. Et nous allons essayer d'enquêter grâce à un détective,
un commissaire,
un commissaire
et une journaliste
et une journaliste sportive
sur laquelle on reviendra. À noter que les crimes sont des coureurs qui sont directement visés et qui sont assassinés les uns après les autres. Selon moi, tu me diras ce que t'en penses après, mais la principale force de ce film, il y en a plusieurs en réalité, mais une des principales forces de ce film, c'est la curiosité d'un polar mêlé au Tour de France, événement sportif. Et le film est composé avec des images qui sont réellement captées sur le Tour de France. Donc il y a une partie presque semi-documentaire à laquelle on injecte une fiction et donc l'histoire de ces crimes. C'est une découverte du milieu du Tour de France, à la fois du point de vue des sportifs, hein, puisqu'on suit des équipes de coureurs, on suit des coachs, on comprend quelles sont les stratégies pour gagner le Tour de France avec vous savez, dans chaque équipe, il y a le coureur, le lead, quoi, le coureur qui est censé gagner le Tour, et puis ses collaborateurs, les autres coureurs qui sont là pour l'aider, pour gagner certaines étapes, pour bloquer, pour faire des techniques d'aspiration, faire en sorte que le coureur de tête soit devant eux. Enfin, il y a plein de méthodes, ou derrière eux pour prendre l'aspiration, plein de méthodes qui sont mises en avant dans ce film. Donc il y a quelque chose, presque un aspect documentaire-reportage sur qu'est-ce que c'est que d'être un cycliste qui fait le Tour de France en 1949. Et puis il y a l'avis des journalistes qui accompagnent le tour, qui rendent compte des étapes, qui font des directs à la radio. On est en 49, la télévision n'existe pas encore de la manière dont elle existe aujourd'hui. Il n'y a pas une télé dans tous les foyers, c'est plutôt début 50. Et donc la radio est colossal, a une importance colossale, et on suit ces journalistes. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, évidemment, du personnage central, le personnage de la colonelle ? Tu peux nous la présenter et nous dire un petit peu ce que tu penses d'elle ?
Bah oui, parce qu'en faisant nos recherches, on a vu que la plus grosse fiction de ce film, c'était que la colonelle est donc une femme journaliste, et c'est certainement la plus grosse fiction de ce film, puisqu'apparemment, il n'avait tout simplement pas de journaliste femme à l'époque.
Ouais. Mais... En tout cas sportif.
Oui, exactement, oui, bien sûr. Donc c'est quand même assez étonnant de mettre ça à l'époque, je suppose.
Très moderne, oui.
Très moderne, exactement. Et ce personnage a en même temps une gouaille assez géniale, une répartie... Enfin, je pense que de toute façon, c'est elle qui fait toute la saveur du film.
Ouais.
Toute la... Moi, plus que le polar, je dirais, parce que le polar, je trouve, est un peu mis au second plan par la comédie, qui, est, je trouve, est très très forte, et passe à travers, justement, cette femme qui est très forte... Et cet inspecteur de police qui, lui, est très discret et très doux. Et c'est plutôt elle qui va...
Jean Brochard, qui est ouais. Le comédien qui interprète l'inspecteur de police.
Et c'est elle qui, en fait, qui va l'idée tout du long du film, en fait, l'intrigue, la course. C'est elle qui fait le lien avec tout, en fait.
C'est un personnage de journaliste qui, donc, au départ, simplement fait son travail de suivre, de témoin de la course et rend des comptes sur qui est en tête, qui est en deuxième position, etc. Et puis, évidemment, petit à petit, va se mêler à l'enquête. C'est une femme qui est extrêmement moderne. On va revenir dessus, mais elle est habillée comme un homme. Elle fume, elle boit. Elle est au centre de tous les cadres entourée d'hommes. On la voit dans des voitures suivant les cyclistes. Elle est toujours centrée au niveau du cadre. C'est extrêmement rare. Moi, j'avoue, j'ai jamais vu... Enfin, à ma connaissance, je n'ai pas souvenir de voir un personnage féminin en 49 au cinéma aussi mis en avant, à l'exception, évidemment, des femmes fatales dans les films noirs américains. Mais elles sont toujours au centre aussi parce que objet de désir, objet de... Elles mènent le héros à sa mort, etc. Ou en tout cas, elles sont...
Ou elle fait partie d'un triangle amoureux ou d'un duo. Enfin, il y a toujours ce truc-là, effectivement, dans les vieux films, on va dire. Enfin, régulièrement. C'est vrai que c'est assez rare. Je crois que c'est ça qui nous a le plus éclaté, parce qu'on l'a vu ensemble avec Thomas. Ce qui nous a le plus éclaté, c'est vraiment... ce mélange vraiment très abstrait de Tour de France, de cette femme qui lead pendant tout le film, en fait, qui est vraiment le personnage principal, et en même temps ce truc de crime, et en fait ce mélange des genres, parce que c'est un film sportif, un polar, une comédie. J'avoue, je crois que je suis pas sûr d'avoir vu ça, en fait.
Ouais, moi non plus, je connaissais
tout court,
pas.
Quoi, mais alors là, effectivement, femme presque personnage principal, ça peut quand même arriver, même si c'était plus rare à l'époque. Mais ce mélange est vraiment étonnant.
Et puis c'est vraiment un personnage très attachant et qui n'est jamais sexualisé. C'est très moderne, en fin de compte, le regard sur Suzanne de Hélie et la comédienne qui joue Colonel.
Bah, elle a c'est ni un défaut ni une qualité du film. Je pense que c'est comme ça que son personnage a été caractérisé. Mais comme tu le disais, elle s'habille en homme, elle fume, elle boit le whisky. Ce qui est tout le contraire, justement, de l'inspecteur de police, qui,
absolument,
lui, ne boit pas, ne fume pas, est discret. Et en fait, c'est presque elle, du coup, qui prend, entre guillemets, la place, qui prend la figure masculine, en fait, et le lead masculin du film, en fait.
Absolument. Une autre des particularités du film dont on parlait un petit peu, c'est le côté presque film touristique. On découvre la France, comme aujourd'hui quand on regarde potentiellement le Tour de France, j'entends souvent des gens qui disent c'est aussi une manière de voir la France. Et ben là, on est en 1949. Les gens, ils ont accès aux actualités cinématographiques, hein, ces actualités qu'on voit avant les films qui sont projetés dans les écrans de cinéma. Mais encore une fois, il n'y a pas la télévision. Et tout d'un coup, au cinéma, on voit cette France mise en scène avec un regard de réalisateur de fiction, et on découvre énormément d'endroits, et moi j'ai trouvé ça étonnant d'être plongé en 49 dans ce Tour de France, avec, comme je vous le disais, presque des éclats de vérité et donc de documentaires au milieu de la fiction. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a cette scène énorme qui, pour le coup, je pense, est très fictionnelle, mais qui, moi, me fait penser à quelque chose du réel.
Cette scène où ils se droguent tous pour se faire des grosses performances, bien sûr.
Non, c'est la scène...
Ça, c'est réel, Thomas.
Est-ce que tu te souviens de cette scène où tout d'un coup, au milieu de la course, il y a un train qui passe et tous les cyclistes s'arrêtent et attendent que le train passe? Et alors, évidemment, il y a le peloton de tête qui est rattrapé par le peloton central. Enfin, bref, les premiers se retrouvent au milieu de tout le monde. Ça fout, tout le monde est agacé. Mais on dirait presque, j'imagine que ça a été écrit comme ça, mais on dirait presque comme ça un autre éclat de vérité. Tout d'un coup, bam, il y a un train qui passe. Et bien, on est obligé de faire une pause. Des choses qui sembleraient impensables aujourd'hui sur le Tour de France.
Mais alors, complètement. Et en plus, j'avoue, alors on voit ça avec nos yeux modernes. Donc, nous, on a pris ça un peu, on s'est dit c'est peut-être vrai, mais on ne sait pas si c'est vrai. Ça nous a fait marrer parce que c'est quand même une scène aussi comique, parce que tout le monde est là à râler, parce qu'ils se font rattraper, parce que machin, parce que bidule, il y a les Italiens qui sont là, il y a les Belges qui aussi arrivent. Et en fait, ils sont là à essayer de se dire, mais on va monter sur ce train pour griller le truc, parce qu'en fait, ce n'est pas possible, on ne peut pas attendre. Et il y a ce truc-là qui monte un peu, et en plus, la scène dure entre guillemets longtemps, quoi. Elle dure bien 3-4 minutes. Quoi. Et il y a ce truc-là de, effectivement... comme tu disais, cet éclat de vérité et en même temps ce truc presque lunaire où tu te dis, mais attends, c'est vraiment possible ça, ce train qui coupe d'un coup le Tour de France, ça vient d'où, quoi? C'est assez marrant.
La fin du film aussi, alors on va pas spoiler évidemment ce qui se passe, mais la fin est aussi un autre éclat de vérité. Et là, pour le coup, ça l'est réellement, puisqu'elle se déroule au Parc des Princes. Et c'est là où se terminait le Tour de France de 1949. Et donc, tout le public qu'on voit, des dizaines de milliers de personnes, sont le vrai public du Tour de France. Et simplement, une heure avant l'arrivée des coureurs officiels, on a annoncé dans les micros, dans les enceintes du Parc des Princes, qu'on allait filmer la fin d'un film et qu'il fallait donc que les spectateurs soient à fond, crient comme si c'était le vrai tour. Et pour la petite anecdote, les comédiens étaient tellement à fond quand ils sont arrivés dans le Parc des Princes, parce que les spectateurs les acclamaient tellement fort, ils ont tellement joué le jeu, qu'ils se sont donnés à fond et que le personnage principal qui devait, enfin le coureur qui devait gagner la course, a eu énormément de mal à gagner la course. Parce que tous les cyclistes amateurs qui étaient derrière lui ont pédalé comme des dieux pour essayer de gagner. Et... quand les vrais coureurs sont arrivés une heure après pour finaliser le Tour de France, il paraît aussi que le public était épuisé d'avoir tellement crié pour les comédiens qui sont passés en premier que la réelle fin du Tour, elle est celle qu'on voit dans le film.
C'est la magie du cinéma, ça.
Voilà, exactement.
C'est vraiment les pauvres sportifs n'ont eu aucune gloire et c'est tous les acteurs d'Hollywood qui ont
récupéré la gloire
et qui ont finalement gagné vraiment le Tour de France. Ça qu'on ne dit pas.
Le film est ressorti avec un autre film, Aux Petits Oives, excellent film de Gilles Grangier de 1950, aussi chez Pathé Film. On n'en parlera pas dans cette émission parce qu'on veut faire un hors-série sur Grangier une autre fois. Mais voilà, c'est encore un excellent film à atmosphère, plongé dans un bistrot parisien qui est aussi très intéressant. Sans transition, j'aimerais que nous allions du côté de nos amis de chez Rimini Éditions, et cette fois-ci pour discuter un petit peu de cinéma de genre avec cette collection Angoisse qui accueille un nouveau titre, Rawhead Rex, le monstre de la lande, un film de 1986. Georges Pavlou, réalisateur mineur, hein, il a fait 3 longs métrages, mais ce qui est intéressant, c'est que le film est écrit par Clive Barker, et Clive et Georges Pavlou avaient déjà travaillé ensemble en 1985 dans un film qui s'appelait Transmutation, qui avait été coécrit par Barker et James Kaplan. Alors Charles, je te laisse pitcher ce film étonnant et un peu décalé.
Ah, mais avec plaisir. Alors, quelque part en Irlande, un fermier détruit, sans faire exprès, un monolithe païen. Et en dessous de ce monolithe se trouvait un monstre, une créature, qui va détruire cette petite ville catholique.
On libère un monstre païen irlandais.
On sait pas trop. Un folklore où le démon s'échappe de sa prison et se dit il y a un peu trop de catholiques dans le coin et il va les dézinguer. Alors il y a une petite famille
Tout le monde y passe quoi.
Tout le monde y passe, ouais.
Toute la petite ville.
Il y a les prêtres, les petites familles, les enfants, tout le monde.
Alors bon, première chose, Clive Barker, l'envie première de Clive Barker, c'était d'aller très loin dans le BDSM, hein, il faut le dire. Et donc, il avait conçu, dans son roman et dans son scénario, un monstre en forme de phallus géant. La réalité, c'est qu'au cinéma, ça passe pas ce genre de choses.
Bien dommage.
Voilà, donc le monstre ne ressemble plus du tout à l'ambition qu'avait Clive Barker, Clive Barker. Et donc... lui n'aimait pas le film. En revanche, c'est un monstre qui est quand même construit sans CGI, qui renvoie à plusieurs films des années 80, peut-être tu veux en parler.
Et surtout nous, on adore ce film, quoi, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un film à voir entre copains aussi. Hein.
Ouais, carrément.
Je pense le voir tout seul, c'est un peu triste quand même.
Ouais, il faut le voir entre potes, c'est un film à voir entre potes.
Mais effectivement, le film est bourré de références. Alors quand on aime un peu le cinéma d'horreur, il est bourré de références. Il y a donc une petite dame encapuchonnée de rouge, qui est un clin d'œil au film de Nicolas Roeg, hein, ne vous retournez pas.
Absolument, et ça a été officialisé par le réalisateur.
Hein, ouais, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit, effectivement. Ça, on a tout de suite spoté ce truc-là. Il y a effectivement le Tollman aussi, qui est une auberge.
Qui est le nom de l'auberge, qui renvoie à Fantasme.
Qui est une super saga de films d'horreur. Et il y a aussi des plans qui font très Evil Dead.
Ouais, absolument.
Vraiment, ces plans, les plans, je ne sais pas si vous voyez, donc le plan iconique d'Evil Dead, c'est une histoire de démon. Et en fait... quand les démons arrivent et attaquent la maison dans le film de Evil Dead, la caméra est en first person,
point de vue, ouais.
Point de POV, comme on dit, donc en point de vue de la première personne, et fonce à travers les arbres, à travers la forêt. Et il y a exactement ce plan-là dans le film aussi.
Monstre renvoie à Alien, à Predator, il a une bouche dans une bouche.
Exactement, il a la carrure d'un Predator et il a une double bouche comme Alien.
Donc c'est quand même un film qui est construit autour comme ça de l'idée de clin d'œil. Après, personnellement, j'ai aimé moi, ce que j'ai aimé vraiment, c'est l'atmosphère. Je trouve que même ponctuellement, n'ayons pas peur de le dire, Roe Hex Head, le monstre de la lande, ponctuellement m'a renvoyé à Carpenter, qui est quand même le patron du cinéma de genre. Le temps de quelques scènes avec ses adorateurs du monstre, cette église. Il y a aussi... tout est construit autour d'un vitrail dans l'église qui représente ce monstre du folklore, d'un certain folklore. Et dès qu'il y a du soleil qui tape le vitrail, ça tape les yeux du monstre et ça fait comme des rayons, des lasers rouges qui viennent toucher les gens dans l'église. Ça m'a fait penser à Prince des Ténèbres de Carpenter et au jet de liquide vert qui possède les gens. Donc j'ai beaucoup aimé cette atmosphère un peu poisseuse, un peu crasseuse irlandaise et que j'ai trouvé plutôt bien remise. Après, je sais pas quels sont les points forts selon toi. Est-ce qu'il y a des choses que t'as remarquées?
Moi, je sais pas si on peut... Est-ce qu'on spoil
la... On spoil pas la scène.
Ah,
on peut en parler,
il y a
une grande scène.
Alors, donc, faut savoir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Thomas. Donc, Clive Barker, il est réputé pour aimer le BDSM. Il s'en cache pas. Et donc, il a fait Hellraiser, par exemple, qui est vraiment... où c'est, où c'est des démons qui fouettent les gens. Et Roe Hex, et exactement comme ça, comme tu disais, il voulait en faire un démon phallus, quoi, littéralement. Et il y a une séquence, que nous ne spoilerons pas, parce que c'est un vrai plaisir de découvrir cette séquence, où, on va dire, il humilie, d'une certaine façon, un prêtre.
Ouais,
Et pour moi, ça, c'est au niveau, quoi.
C'est peut-être dans chaque série B, il y a toujours un moment où...
Un éclat de vérité,
voilà,
j'ai envie de dire.
En tout cas, on cherche généralement, quand on aime la série B, on cherche ce moment où, tout d'un coup, le temps de quelques minutes, le temps d'une scène, il y a quelque chose de provoquant, quelque chose de rock'n'roll, si j'ose dire. Et clairement, dans ce film-là, il y a une scène extrêmement inattendue. Enfin, on a quand même un peu sursauté en la voyant, genre « Waouh, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer ?» Et qui donne pas mal de piment et d'intérêt à cette série B. Bon, après, il y a des choses plus ou moins... j'ai envie de dire presque tout le carnet d'adresses de la série B est coché. Il y a de la nudité, il y a de la violence, etc. Mais...
c'est pas un dépaysement total, oui.
Voilà, c'est pas du tout un dépaysement total. Mais en tout cas, c'est un film très sympathique qui s'inscrit... Alors ça, on en reparlera, on va faire un hors-série là-dessus, mais qui s'inscrit dans une collection complètement déjantée. Collection donc, sur laquelle nous reviendrons plus longuement, la collection Angoisse de chez Rimini. J'ai le sentiment que pour tous les admirateurs de série B, tous les gens qui s'intéressent à
Vous
Clive Barker,
Allegre FM 93.1.
Tous les gens donc qui s'intéressent à Clive Barker, c'est un film intéressant et assez rare en fait. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Roe Hex Head, le monstre de la lande.
Mais je pense que c'est vraiment le ce que tu découvres parce que les vidéoclubs n'existent tout simplement plus en fait. Je pense que c'est un truc que tu découvres en vidéoclub, tu sais pas ce que c'est, et en fait tu pioches le machin et tu regardes ça, t'as 10 ans et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est subversif, tu vois.
Exactement.
Je pense que c'est vraiment ce genre de film, nous, qu'on apprécie toujours autant et c'est tellement bien de les voir ressortir en plus en bonne qualité, tu vois. C'est vraiment super.
Merci à Rimini Édition pour cette ressortie. Comme je vous le disais, le mois prochain, on se retrouve pour un hors-série et on prendra le temps de parler de cette collection Angoisse, parce qu'il y a énormément de titres différents et on essaiera de trouver un petit peu un chemin de traverse à travers tous ces titres pour vous proposer une émission hors-série sur laquelle on reviendra sur une ou deux sorties de la semaine, évidemment, et puis intégralement sur la collection Angoisse. Merci à toi, Charles, pour cette émission.
Merci, Thomas.
Merci à Raphaël Chada, qui est donc le réalisateur de cette émission. Et on se voit le mois prochain. À la prochaine.
À la prochaine.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
N'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien fait.